portrait, Monique Olivier.
20 ans finalement, c'est la peine qui est tombée ce soir. Mais nous espérons enfin que ce verdict va apaiser petit à petit notre souffrance.
Estelle, disparue. Un podcast réalisé par Jean-Philippe Navarre sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
France Culture. Tout de suite, allons-y voir Patrick Boucheron.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût. Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Darling, I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jusqu'où peut mener l'amour inconditionnel de la beauté ? Et sommes-nous prêts pour elle, et au nom de la force qu'elle nous inspire, à consentir aux crimes les plus monstrueux ? Voyez Leni Riefenstahl, la cinéaste d'Hitler. Voyez-la danser, jeune et souveraine, sous l'œil de la caméra. Voyez-la gravir les montagnes quand elle n'a pas 30 ans, ou à la fin de sa vie, quand elle a presque 100 ans, plongée dans les mers du Sud pour filmer les poissons. À ce moment-là, elle n'a toujours pas compris ce qu'on pouvait bien lui reprocher. Elle a filmé les masses nazies de Nuremberg en 1934, comme elle a filmé les dieux du stade de Berlin en 1936, mais aussi, bien plus tard, ces jeunes guerriers nus du Soudan. Elle a fait tout cela par amour du beau geste, de la force du verbe et du mouvement de caméra. Où est ma faute ? Se demande-t-elle. Il faut la voir regarder tout cela. Il faut voir la force inentamée de sa volonté, de sa sensualité, pour comprendre jusqu'où peut conduire l'esthétisation du politique. Allons y voir, avec l'historien du cinéma Jérôme Bimbenet et le romancier Jean-Noël Orengo, bientôt rejoint par notre sociétaire du jour, Éléonore Chaline. Sur nos écrans vient de sortir un documentaire saisissant où le réalisateur Andrés Vayel sait, à force d'archives, briser le mur du mensonge. Son nom, Leni Riefenstahl, la lumière et les ombres. On y voit la lumière, inentamée, du regard de la cinéaste d'Hitler, mais aussi parfois, oui, mais c'est fugace, une ombre qui s'attarde sur son visage. Par exemple, quand elle dit ceci.
I think my life was very hard.
Si je pouvais recommencer à zéro, qu'est-ce que je ferais ? J'ai eu une vie difficile, mais aussi très riche. Je dirais que oui, j'aimerais recommencer. Sans rien changer, je ne sais pas. J'aimerais faire moins d'erreurs. Quelles sont mes erreurs ? Votre lien avec Hitler en fit-il partie ?
Jérôme Bimbenet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien du cinéma, chercheur associé à l'IHTP, et vos écrits plongent dans le cœur vénéneux de ce qui va nous préoccuper aujourd'hui, la fascination esthétique pour le nazisme. Dans « Voyage à Berlin », paru chez Talendier en 2023, vous décrivez un aveuglement, celui de l'actrice française Danielle Darrieux, et avec Leni Riefenstahl, dont vous avez également écrit la biographie en 2015, je crois, bah c'est autre chose. Elle a toujours gardé les yeux grand ouvert. Et vous, vous n'avez pas la tentation de les fermer parfois sur tout ça, depuis si longtemps que vous êtes un historien de la propagande nazie ?
Si, il m'arrive de vouloir fermer les yeux, et en même temps quelque chose me fascine, ouais, justement, et je continue à essayer de comprendre, et à la base même d'ailleurs de mon travail, c'était la question était comment un peuple comme le peuple allemand, qui était un grand peuple éduqué, celui de la philosophie du 19e siècle par exemple, avec tous ces grands romanciers, comment a-t-il pu un jour se donner entièrement à Adolf Hitler ?
C'est ça.
Et à partir de là, alors je n'ai pas la réponse.
Jean-Noël Orengo, bonjour. bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous aussi, vous vous intéressez au cinéma comme critique pour la revue Transfuge et à l'histoire de l'art. D'ailleurs, vous avez publié un très bel essai intitulé « Vivre en peinture » ou « Cahier dessiné ». Mais c'est comme romancier qu'on vous reçoit aujourd'hui. Dans « Vous êtes l'amour malheureux du Führer », vous vous affrontez au mensonge d'Albert Speer, opposant une contre-fiction à ce maître de la fabulation qui a réussi à devenir une star. Hein. C'est comme ça que oui. vous l'appelez dans le livre, une star de la culpabilité allemande.
Oui, c'est ça. En fait, aurait-il été seulement l'architecte et le ministre d'Hitler, je n'aurais sans doute pas écrit ce livre. Ce qui m'intéressait, c'est ce qu'il a fait après de cette histoire et la place inédite qu'il a occupé après-guerre, à sa sortie de prison en 66 et à la sortie de ses mémoires, surtout en 69. À partir de là, il devient effectivement cette star de la culpabilité allemande et il joue véritablement, je pense qu'il considérait l'art du récit historique comme un art de la guerre et c'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire il avançait des fictions qui s'opposaient à la quête de vérité des historiens et c'est là pour moi où le roman commençait, notamment à travers l'historienne Gita Sereni qu'il a fréquentée. C'est comment l'historien est le personnage historique, quand ils se rencontrent, opposent leur version.
Exactement, oui, c'est ça que vous faites et que vous mettez en scène justement par ce jeu de contre l'autofiction finalement.
Oui, c'est ça.
Et donner à voir et ouvrir les yeux. Alors, on va peut-être commencer comme ça, Jérôme Babenet, Jean-Noël Orengo, ouvrir les yeux vers sur une image qui est peut-être l'image la plus attendue de ce dont on doit parler, cette esthétisation du politique. Une image où Albert Speer et Leni Riefenstahl, évidemment, sont les premiers artisans. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on a sous les yeux, là?
Alors, c'est le congrès de Nuremberg qui se déroule donc là en 1934, mais l'image semble plutôt tirée du congrès, du premier congrès depuis l'accession du parti nazi en 33, parce que ce que l'on voit là, en fait, c'est une immense esplanade avec au fond une tribune, mais qui ne semble en tout cas ne pas correspondre forcément à celle qui est bâtie en 34. Quoi qu'il en soit, donc, ce sont des colonnes d'hommes. On est en plein jour. Les gradins autour sont vides et au fond, eh bien, on a une foule, sans doute les caciques du régime, et devant, il y a ce qui semble être une fanfare. En tout cas, on est en plein congrès de Nuremberg, nazi.
On a les drapeaux, on a les croix gammées, on a les masses ordonnées, Jérôme Barbenet, et tout ça, c'est cette architecture qui a été pensée aussi déjà pour le cinéma.
Oui, complètement. Leni Riefenstahl avait transformé Nuremberg en plateau de cinéma et elle a elle-même ordonné avec Speer, qui est à l'origine en grande partie des décors et aussi d'ailleurs de la mise en scène. Elle était un petit peu le guide de Leni Riefenstahl sur le tournage. Et elle avait pensé à toute cette organisation et là, effectivement, sur cette photo, c'est tout à fait typique des films de Riefenstahl et en particulier du Triomphe de la Volonté, qui est certainement le plus célèbre film de propagande, où on voit toutes ces masses alignées, toutes ces colonnes alignées. Et lorsque la caméra monte, puisque là, toute la séquence en fait se termine avec une énorme plongée sur l'ensemble du Zeppelinfeld, eh bien, on a vraiment l'impression que ces masses déshumanisées, on pourrait les déplacer comme ça avec une main et en faire absolument ce qu'on veut.
Plongée, contre-plongée, oui. Ça, le cinéma va se souvenir, évidemment, pendant très longtemps, de cette manière de filmer les foules.
Oui.
Noël Orengo.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu une mise en scène, comme vous le disiez, c'est une mise en scène d'une mise en scène. C'est-à-dire que Speer a conçu une architecture socle sur lequel il n'y a pas de toit, hein, véritablement. C'est véritablement en plein air, c'est granitique. Et puis, il y a cette chair, la chair des fonctionnaires du parti, la chair des SA et des SS qui est là. Et, alors, Speer avait, pour lui, le clou du spectacle, c'était la nuit, évidemment, parce que c'est là où il avait disposé ses fameux projecteurs antiaériens qui faisaient des colonnes de lumière.
Des colonnes de lumière.
Voilà, ce qu'on appelait la cathédrale, ce que la presse internationale avait nommé la cathédrale de glace et le dôme de lumière. Mais effectivement, Leni Riefenstahl s'est emparée de ça pour en offrir des images qui sont restées, qui ont marqué. Et puis, il y a tout ce montage qui est fait, il y a tout ce travail de rythme dans le film qui est sorti là, le documentaire, effectivement, elle parle de la notion de rythme, justement, où elle dit que c'est très important.
Et d'ailleurs, Jérôme Babenet, on est à un moment, il faut contextualiser un petit peu, où Leni Riefenstahl, comme cinéaste, et qui a, d'une certaine manière, tous les moyens à sa disposition. C'est Hitler qui, je l'ai lu dans votre livre, invente son titre, hein, directeur artistique.
Oui, c'est ça. Oui.
Voilà. Et Albert Schwer qui est évidemment l'architecte.
Oui, c'est une commande directe de Adolf Hitler, ce film. Quand ils se sont rencontrés pour la première fois, il lui avait proposé de faire les films du parti lorsqu'il serait au pouvoir. Donc ils se sont rencontrés quelques années avant, enfin 2 ans avant en fait, en 1932. Et là, c'est une commande officielle, c'est-à-dire qu'elle a tous les moyens financiers pour pouvoir réaliser ce qu'elle veut. Et donc elle transforme vraiment le plateau, le Nuremberg en plateau de cinéma. En fait, c'est un gigantesque plateau de cinéma.
Le 19 avril 1934, elle est donc désignée par le Führer à la direction artistique et technique. Et au fond, jamais un cinéaste ne bénéficiera par la suite d'une telle autonomie en régime nazi.
Non, elle est la seule. Effectivement, une autonomie complète et surtout, elle veut tous les pouvoirs et le contrôle absolu sur le film. Et un contrôle, y compris dans la mise en scène. Et je parle bien de mise en scène, parce qu'il s'agit d'un documentaire, mais c'est un documentaire totalement mis en scène.
C'est d'ailleurs cette question aussi qui va nous occuper, Jean-Noël Orengo, c'est que la propagande, là on est tenté effectivement de mettre en parallèle formellement la propagande communiste, la propagande nazie, mais là, d'une certaine manière, ce qui est spécifique, c'est que la propagande nazie, elle passe par le documentaire. C'est-à-dire le film documentaire de... Il y a eu quelques autres exemples, mais au fond, ça marche pas si bien. Goebbels est déçu.
Oui.
Hein, et il y aura à la fois, ça c'est ce que Manoni dit très bien, des bluettes sentimentales et ça. C'est-à-dire cet éloge brutal de la force.
Oui, mais ça tient, je pense, hein, en tout cas dans ce que l'on voit de Riefenstahl, ça tient dans le talent du cadrage et le talent, encore une fois, du montage et de cette rythmique qu'elle met en place, où effectivement, bon, ça s'appelle le triomphe de la volonté. Ce qui me frappe dans le documentaire, c'est qu'à un moment donné, elle a des phrases à propos de Schwer, justement, de leur rencontre. Elle dit « Nous avions en commun une volonté de faire. » Et là, véritablement, c'est pas rien de dire une volonté de faire. Et donc, ça se manifeste aussi dans la manière qu'elle a, certes de filmer, mais ensuite de monter. Parce que c'est quand même ça, c'est un art du montage extraordinaire.
Alors justement, la question effectivement qui est posée dans vos livres, mais aussi dans le documentaire, c'est de dire, bah, est-ce que c'était seulement le désir de faire grand, le désir de beauté qui les animait, ou s'il n'y avait pas fondamentalement une adhésion, ce qui nous paraît évident aujourd'hui, mais ils ont quand même mis beaucoup d'efforts pour le faire croire, et on les a crus, s'il n'y avait pas évidemment une adhésion au nazisme. Écoutez ce qu'on entend dans ce documentaire.
So that when you made Travel the World... You made it for Hitler.
Oh no, never I would say this.
Je ne dirais pas que j'ai fait le triomphe de la volonté pour Hitler. J'ai reçu l'ordre de le faire et j'ai obéi du mieux que j'ai pu. Si Roosevelt m'avait donné l'ordre de réaliser un film sur les avions, j'aurais fait de mon mieux. De même, si Staline m'avait demandé de réaliser un film. Dès que j'ai les caméras, les caméramens, le son et le reste, je ne vois que le travail.
Sie sind Deutschland. Wenn Sie handeln, handelt die Nation. Wenn Sie richten, richtet das Volk.
Sie haben mich auch gefragt, ob
Vous m'avez demandé si le film contenait un message. En montant le film, je l'ai compris. Il y a un message. Il est dans le film.
Sie waren uns der Garant des Sieges.
Vor allem die Kongressreden von Hess.
Le discours de Hess notamment.
Hitler ist uns der Garant.
Quand il dit Hitler est le garant de la paix.
Friede, Friede, und das ist im Film.
La paix, c'est une constante dans le film. Il n'est fait mention d'aucun autre dessein politique. On ne parle ni d'antisémitisme, ni de théorie raciale. On ne parle que de travail et de paix.
Ein Volk, das nicht auf die Reinheit seiner Rasse hält, geht zugrunde.
Là, on est au cœur du mensonge. vraiment au cœur du mensonge, et la manière dont Andrés Weyl, le documentariste de Leni Riefenstahl, La lumière et les ombres, parvient à le défaire, sans commentaire d'ailleurs, il y a très peu de voix off, c'est de confronter ce qu'on vient d'entendre avec la suite des discours, qui sont évidemment des discours de haine et, et d'appel au meurtre.
Et même les images, ce sont des images d'uniforme quand même. Donc pour la paix, c'est vrai que c'est une défense paradoxale. Mais alors, elle était, j'ai envie de dire, sans filtre dans sa défense par rapport à Speer. Si on peut faire des comparaisons, Speer, lui, c'est plus complexe. C'est-à-dire, il assume une culpabilité tout en voulant défendre son innocence à titre strictement individuel. Mais effectivement, alors elle rappelle des faits. C'est vrai que c'est une commande. C'est vrai qu'elle a fait du mieux qu'elle a pu. Et c'est ça aussi qui est fascinant dans ce genre de témoignage, c'est que c'est faux, mais c'est vrai aussi sur certains points. C'est-à-dire que les deux sont si habilement imbriqués. Et donc, c'est quelque part une sorte d'irresponsabilité de l'artiste, en fait.
Jérôme Barbenet, vous avez travaillé donc dans ce livre Leni Riefenstahl, la cinéaste d'Hitler, paru en 2015 chez Talendier, sur toute une série d'archives. Il y en a eu d'autres qui, depuis la mort de son compagnon, je crois, en 2017, se sont révélé et que le cinéaste utilise, Weyl, dans ce documentaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé, d'ailleurs, de ce film ?
Ah, j'ai beaucoup apprécié. D'abord, j'ai apprécié qu'il sorte au cinéma. Ça lui donne une visibilité qu'un passage télé ne lui aurait pas donnée. Et puis, c'est un film... je l'ai apprécié pour deux raisons. La première, et vous venez de le dire, c'est des nouvelles archives auxquelles moi, je n'ai pas eu accès à l'époque. Même quand j'ai réécrit un petit peu pour la publication en poche, il y a des archives que je n'avais pas.
C'est considérable, 700 caisses d'archives,
absolument.
C'est énorme.
Parce qu'il faut effectivement savoir que Horst Kettner, qui était le compagnon de Leni Riefenstahl, bloquait systématiquement tout, et que donc j'ai absolument eu accès à rien, ni même mon éditeur, donc jusqu'en 2017 au moins, et qu'après, ça s'est ouvert, et je suis passé à côté, mais c'est comme ça, c'est la recherche, et ces archives sont absolument passionnantes. Alors elles ne m'étonnent pas beaucoup, puisqu'elles conservaient tout, aussi avec ce sentiment de déculpabilisation. On parlait un peu avec Speer de réécriture de l'histoire. Bon, Riefenstahl a largement réécrit son histoire.
Oui.
Et ça m'a beaucoup intéressé, puisque j'ai trouvé très bien aussi, et vous l'avez un peu mentionné, c'est qu'il n'y a pas de voix off, quasiment pas de voix off, et ce n'est pas un film qui dit au spectateur ce que le spectateur doit penser. Et donc c'est un film qui prend les gens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres éduqués et intelligents, capables de se faire leur propre opinion.
On n'est pas très loin, Jean-Noël Orengo, de votre art romanesque, qui est de disposition, de montage, met les pièces à disposition.
Oui, c'est vrai, sans forcément commenter, mais en reprenant, en tout cas moi, par rapport aux mémoires de Speer, c'était de reprendre quelques scènes et puis de les remonter, de les remettre en scène.
De remonter, c'est bien ça.
Voilà, c'est ça, de les remonter. Pour revenir au contexte des années 30, c'est vrai que c'est quand même un contexte marqué par les avant-gardes, et Riefenstahl, comme Speer, connaissait ces gens-là. À la différence des autres classiques du régime, ils ne sont pas des apôtres de contre l'art dégénéré, vous voyez, ils ne sont pas du tout de cette façon-là. Et donc c'est vrai qu'ils ont cet art paradoxal qui est de mettre au service de l'idéologie nazie un certain nombre de techniques qu'on pourrait retrouver ailleurs dans des domaines avant-gardistes.
Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que à l'issue effectivement de tous ces travaux, de vos livres, de ce film, là, il n'y a plus de doute. C'est-à-dire que Leni Riefenstahl a adhéré totalement, avec enthousiasme, à l'idéologie nazie.
Ça apparaît assez bien dans le documentaire, d'ailleurs. Ça démontre bien la chose, parce que c'est vrai que dans mes travaux, elle avait toujours le bénéfice du doute à certains moments, parce que je veux bien croire qu'elle ne s'intéressait pas à la politique. D'ailleurs, Hitler lui a fait comprendre plusieurs fois qu'elle n'avait rien à faire dans la politique. Donc son rôle était bien artistique, malgré tout, mais elle avait quand même le bénéfice du doute, sans preuve absolue. Et là, c'est vrai qu'avec le documentaire, et en particulier tout ce qui se passe après, dans les années 70, quand elle reçoit tous ces coups de téléphone après cette émission de télévision où elle est confrontée à cette dame résistante qui a le même âge qu'elle, elle reçoit des coups de fil de gens qui la soutiennent.
Ça, c'est incroyable.
Extraordinaire.
Ah oui,
on voit ce que c'est quand même que l'après-guerre en Allemagne, elle est soutenue.
Complètement.
Elle est soutenue par tout un ensemble de personnes, d'une génération, semble-t-il, quand même, mais effectivement. Mais c'est cette scène d'émission que je ne connaissais pas du tout, où elle révèle aussi sa personnalité, où elle...
Pleine de morgue,
pleine de morgue et d'agressivité, à la moindre attaque, c'est-à-dire qu'elle ne laisse pas le temps à ses interlocuteurs véritablement de développer leur argument que tout de suite elle les attaque et elle révèle là quand même quelque part une personnalité.
Et donc elle est confrontée dans cette émission de télé, c'était en 1974, oui. Une ouvrière en fait,
c'est ça,
une
communiste.
Qui dit communiste, elle dit je suis travailleuse, c'était mon métier, et là tout le monde se moque d'elle. Et ensuite Leni Riefenstahl, et c'est saisissant quand même dans le film, elle pose devant un sac entier de tout le courrier de soutien qu'elle a reçu.
Absolument. Alors, elle, par rapport à Speer, c'est l'inverse. Lui est souvent attaqué par les gens de cette génération, parce que lui est passé de l'autre côté.
Justement, on va écouter un autre extrait du documentaire qui met en scène la rencontre entre Riefenstahl et Speer.
Können Sie sich erinnern, das erste Mal, dass Sie Speer persönlich getroffen haben?
Ma première rencontre avec Speer, c'était la veille du congrès du parti, sur une esplanade. C'était en 1933. J'ai pensé, peu importe qu'il soit national-socialiste, juif ou autre, c'est un grand homme. Nous avons immédiatement été sur la même longueur d'onde pour ce qui concerne l'art et notre profession. Nous étions assez semblables. Une volonté de faire, idéaliste, prêt à faire des sacrifices et sans compromis.
Moment, ich möchte keine Pressekonferenz hier machen. Nein, gar keine Frage.
Le jour de sa libération, il a dit qu'il allait bien et il a minimisé les choses. Je me suis demandé, comment est-ce possible ?
Bon, là, on est toujours effectivement dans cette question des avant-gardes, hein, Jean-Alain Ringo, oui. Qui est aussi une esthétique des ruines à venir. Je vous cite dans votre roman « Vous êtes l'amour malheureux du Führer ». D'ailleurs, à Nuremberg, dépouillé après chaque congrès de ces masses de chair humaine, de ces colonnes lumineuses et de ces bannières géantes à croix gammée, l'esplanade silencieuse et ces lignes innombrables de gradins et d'escaliers traversés par les vents ont déjà l'air de ruines.
Oui,
c'est ça qui les rassemble aussi, les deux. Hein.
Oui, je pense qu'on est là au cœur de la conception de l'art par le nazisme. C'est-à-dire, c'est une propagande, mais c'est aussi des constructions, des œuvres qui intègrent leur destruction, en fait, notamment dans le cas de Speer, puisque c'est lui qui a émis la théorie sur la valeur des ruines, à savoir que chaque monument du Reich devait être construit en fonction des ruines, qu'il sera plus tard, ce qui est une absurde, évidemment, mais ça a entraîné des calculs assez fantaisistes sur tel lézard à tel endroit. Et effectivement, c'est ce rapport à l'anticipation de la mémoire, mais dans le sens de la destruction, qui est quand même assez fondamental.
Et bien sûr qu'on pense à Walter Benjamin, pour qui le fascisme conduit à l'esthétisation de la politique, alors que le communisme, lui, mène à la politisation de l'art, au moment où, écrit-il, l'humanité est suffisamment aliénée pour, je le cite, être capable de vivre sa propre destruction comme une jouissance esthétique. Là, on est vraiment, finalement, au cœur de cette fascination incompréhensible, mais apparemment si puissante, hein, Jérôme Bimbenet.
Oui, et Leni Riefenstahl participe très largement à ce que vous venez de dire. Elle met en scène cette future destruction du nazisme quasiment. Ses films respirent le nihilisme, que ce soit le Triomphe de la Volonté ou même Olympia. D'ailleurs, dans Olympia, elle va carrément chercher les ruines, puisque le prologue du film, c'est la statuaire grecque, avec ce lien qui est fait entre la statuaire grecque et ensuite Olympie, mais c'est-à-dire Sparte, en réalité, la cité guerrière, et l'Allemagne nazie. Donc on part bien des ruines. Et dès le début, elle voulait que ces films soient conservés, mais elle savait très bien que ce qu'elle filmait risquait de ne pas tenir. Ouais. Et moi, je me souviens aussi de ce que disait Goebbels sous les bombardements en 1945 à Berlin, peu avant la chute de Berlin.
J'en parlais aussi.
Et Goebbels, qui à un moment dit, bon écoutez, nous sommes filmés, il y avait en plus un documentaire qui se faisait, ou peut-être on parle de la même chose, je ne sais pas.
C'est ça, c'est les jeunesses hitlériennes. Il s'adresse aux jeunesses hitlériennes, parce qu'il est le Gauleiter de Berlin, et il dit aux jeunesses hitlériennes qui vont se battre, on est en avril, agissez comme si vous étiez filmé, dans 50 ou 100 ans, on fera des films sur vous.
Exactement,
C'est une phrase incroyable.
Ouais. Oui, oui.
Et dans, il y en a une autre que je voudrais aussi vous, vous soumettre, enfin un épisode dans votre livre d'ailleurs, Jérôme Bimbenet, et aussi dans le documentaire dont on parle. C'est peut-être le moment où on voit Leni Riefenstahl douter de l'innocence de son art. C'est le massacre de Konski. Hein. Antoine Debecq en a bien parlé là, dans un article qui vient de faire paraître dans l'Histoire. Donc on est en septembre 1939, je crois. Elle filme la conquête de la Pologne par les armées allemandes. Et puis elle s'arrête à Konski, donc le 12 septembre. Elle dit il y a des prisonniers juifs qui sont dans un fossé, qui travaillent. Et elle a un mouvement de caméra. Elle dit, là, cela y gêne. On dit bah d'accord et on les tue.
Oui, oui. Oui. Et c'est la c'est sans doute là qu'il y a cette photo où elle pleure.
Et là, oui, il y a une photo où elle pleure.
Cette fameuse photo là.
C'est-à-dire que là, à ce moment-là, débarrassez-moi de ces de ces gêneurs. Ok. Oui. 40 morts.
C'est ça.
Ouais.
Oui, oui, oui.
Donc quand Godard dit le travelling est une affaire de morale,
oui, oui. Non, mais là, c'est,
là, on est en plein, c'est un travelling qui a coûté cher.
Oui, oui. Mais d'ailleurs, ça va. Je pense que ça va la marquer puisqu'elle va quitter la Pologne. En fait, elle arrête son tournage à ce moment-là.
Donc ça, c'est pas une légende. La photo de...
Non.
Et elle refuse, je crois, après toute oui. Commande en tant que correspondante de presse.
C'est ça, elle refuse, mais en même temps, là encore, il y a un petit doute, parce qu'une partie de son équipe est restée sur place, malgré tout, pour tourner. Et au moment où les Français, les Américains d'abord et les Français ensuite, vont arriver chez elle pour l'arrêter, donc à la fin de la guerre, ça, j'ai trouvé ça dans plusieurs témoignages, il y a de la pellicule qui brûle chez elle. Alors, est-ce que c'est un accident ou pas? Sachant qu'elle gardait tout, et qu'elle contrôlait tout, j'ai quand même un gros doute sur ces pellicules. De quoi s'agit-il?
Oui.
Non, je pensais simplement au credo politique qu'elle énonce, qui est quand même elle énonce vraiment le credo de la radicalité. Là, ce qu'on a entendu, volonté de faire, idéalisme, sans compromis.
Oui.
On n'est pas du tout justement dans le doute dont vous parliez tout à l'heure. Mais là, elle l'a eu peut-être.
Oui. Alors justement, cette question, moi, c'est la question que je voudrais vous poser comme historien, comme romancier. Comment affronter cette fascination? Comment comprendre combien cette amour immodéré de la beauté, du beau plan, peut effectivement aller jusqu'à la fascination pour la mort. Vous, Jean-Noël Orengo, pour aller à Albert Speer, vous n'y allez pas directement. Vous y allez par la voix, dans les deux sens du terme, d'une historienne, Gita Sereni. On l'écoute et puis on en parle.
Évidemment, il était nazi, mais il n'était pas... C'est vrai, il n'était pas un homme politique, Speer. C'était il adorait dire qu'il était artiste, que sa vie n'était pas politique. Mais c'est vrai à un certain point. Et c'était vraiment une relation entièrement personnelle entre lui et Hitler. Et c'est quand même absolument extraordinaire que cette relation personnelle aurait créé les conséquences que ça a eues pour Speer. Et pour moi, c'était absolument extraordinaire parce que vous savez, de trouver une personne qui a connu Hitler si bien, enfin vraiment, je pense qu'il n'y avait personne en Allemagne qui connaissait Hitler aussi bien que Speer. Et de le voir parler librement et ouvertement, non seulement de sa relation avec Hitler, mais de me raconter le côté, si vous voulez, personnel de Hitler, qui était évidemment qui était assez saillant. C'était pas une, vous savez, c'était pas épouvantable. C'était je comprenais pourquoi il se trouvait ami de Hitler. C'était un homme très chaud, Hitler.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
On a entendu Gita Sereni au micro d'Alain Finkielkraut, c'était dans Réplique 2007. Dans votre livre, Jean-Noël Orengo, vous êtes l'amour malheureux du Führer, qui est paru cette année chez Grasset. C'est par elle que vous accédez au motif. Sans elle, vous n'y allez pas. En
absolument.
Fait.
Pour moi, c'est une figure centrale du livre et c'est une figure. J'en ai pas fini avec Gita Sereni. C'est une personne fascinante, historienne, journaliste, qui a fait de sa vie une quête d'élucidation du mal, MAL, dans toutes les dimensions possibles, historiques, sciences sociales, et puis aussi peut-être métaphysique, même si elle n'emploie jamais le terme. Mais là, c'est une archive remarquable parce qu'on voit elle-même comment elle est prise dans son sujet. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une fascination pour Speer quand elle dit qu'il n'est pas politique. Oui, et en même temps, d'autres historiens pourraient dire que non. C'est-à-dire que, voilà. Et donc, il y a cette chaîne de fascination qui se crée. Et je crois que écrire sur ça, eh bien, c'est une clé pour continuer à toujours à écrire sur ces sujets-là. Moi, quand j'ai commencé ce roman, on m'a dit encore un livre sur les nazis. Mais en fait, c'est eux qui se sont rendus inoubliables. C'est eux qui, par l'ampleur de leurs crimes et le fait qu'ils ont comme jamais uni l'esthétique au sens le plus trivial du terme et la politique, même les soviétiques ne sont pas allés aussi loin, c'est un régime limite en fait. Et on voit ce que c'est devenu après. On est passé dans une sorte de pop histoire depuis les années 60 et le nazisme et Hitler est le personnage le plus connu au monde, le personnage historique le plus connu au monde. Vous allez au fin fond de l'Indonésie, on sait qui est Hitler, on ne sait pas qui est Gandhi.
Et ça commande cette fascination inoubliable, oui. Obsessionnelle. Oui, votre art romanesque, Jean-Noël Orengo, c'est-à-dire que votre livre avance, j'ai envie de dire tournoie, enfin en vrille autour de son sujet, pour pas seulement démasquer les mensonges, pas ça le problème, mais c'est pour lui opposer une contre-fiction.
Oui, c'est l'écriture qui trouve des choses. J'avais pas cette idée de faire la contre-fiction. C'est à la fin en me disant mais qu'est-ce que c'est quoi ce livre? Et en fait, ces contre-fictions pour moi, c'est tout simplement d'opposer. Enfin, pas d'opposer, mais de reprendre les récits et les mises en scène de Speer, de les remettre en scène à son tour, un peu comme si on éclairait cette salle autrement, et ça révélerait des ombres et des formes différentes. Eh bien là, ça révèle la part fictionnelle de cet homme, notamment la rencontre avec Hitler, notamment des scènes autour du veston de Hitler prêté à Speer, et en comparant les tailles des deux individus, on voit que c'est pas possible. Et donc, tout ça fait que pour moi, on aboutit à cette espèce de contre-fiction comme une contre-enquête.
La question de la contre-fiction et de la contre-enquête, Jérôme Benbenet, évidemment, ça vous intéresse comme historien de la propagande, et on faisait on esquissait une comparaison avec la propagande communiste, mais qui passe par la fiction, elle, qui passe largement par le film de fiction, et d'une certaine manière, on peut regarder Eisenstein en le séparant de sa portée de propagande. On peut pas regarder Leni et Riefenstahl autrement que comme des films de propagande. Il y a rien d'autre que ça.
Il n'y a rien d'autre que ça, et par exemple, Le Triomphe de la Volonté a été annoncé tel quel. C'est médiatisé en tant que film de propagande. Tous les médias étaient là à regarder le grand film de propagande allemand. Donc, c'est une forme de prototype du film de propagande. Avec Leni Riefenstahl, effectivement, ce sont des documentaires. En fait, elle filme le Troisième Reich, elle esthétise le Troisième Reich, et quand on voit ces films, on voit forcément le Troisième Reich. Alors qu'effectivement, avec les films de fiction, c'est pas du tout la même chose. Quand vous regardez Alexandre Nevsky, vous regardez Alexandre Nevsky. Vous n'êtes pas obligé de savoir qu'en fait Alexandre Nevsky c'est Staline et qu'il y a tout un contexte derrière pour amener la population à lutter contre les Tatars d'abord, contre les chevaliers teutoniques après. Donc il y a une double lecture dans le cinéma soviétique. Chez Leni Riefenstahl, il n'y a pas de double lecture.
Mais alors là, c'est vertigineux quand même, Jérôme Benbenet, parce que comme historien du cinéma, vous savez bien que l'image qu'on regarde là, cette image du Triomphe de la Volonté 1934, ou celle par exemple des dieux du stade, eh ben, elle est matricielle pour le cinéma. C'est-à-dire que Spielberg, Scott, Gladiator, quand il y a une foule à filmer avec des contre-plongées, des contre-plongées, on fait comme ça. Et les Jeux Olympiques, 1936, les dieux du stade. Et ensuite, Munich 72, Montréal 76, c'est toujours Leni Riefenstahl.
C'est toujours elle. Et à propos de la photo qu'on a sous les yeux, ça me rappelle également la dernière séquence, la dernière scène de Star Wars. Star Wars, le 4. Donc, vous voyez ce que je veux dire, la dernière scène. George Lucas l'a parfaitement assumé. Donc, effectivement, c'est un film de propagande qui est la matrice d'une grande partie du langage cinématographique d'aujourd'hui.
C'est tenace, hein, l'idéologie nazie.
Oui, c'est tenace, mais c'est vraiment moi, ce qui me frappe, c'est que depuis les années 60, en fait, véritablement, le nazisme s'est popularisé, en fait, dans l'imagerie. Alors, dans les années 60-70, il y a eu la Nazi Exploitation au cinéma, il y a eu... mais c'est resté, véritablement, c'est devenu une sorte... Le personnage d'Hitler est un personnage universel. Vous allez en Asie, il y a encore des affaires autour de ça, et c'est vrai que c'est la force de ces images, c'est la force des images de Leary Riefenstahl et des mises en scène de Speer qui ont codifié une sorte d'inconscient collectif. Je sais que le terme est psychanalytique, ça peut sembler anachronique, mais c'est ça.
Leary Riefenstahl, At the End of the Time, 2006. À la fin des temps, je ne sais pas, mais dans les années 60 et 70, effectivement, ça devient un peu une icône féministe, parfois même une icône gay, parce qu'elle a quand même promené sur les corps virils et forts des soldats et des athlètes un regard de femme, un regard sensuel. Qu'est-ce qu'on fait avec ça aujourd'hui, hein, Jean-Noël Rengo?
C'est marrant parce qu'on la voit avec Andy Warhol, je crois, dans le documentaire. Elle aimait les hommes, ça c'est documenté, effectivement. Elle a eu beaucoup d'amants, elle aimait le corps masculin, le corps athlétique. Et il y a eu cette quête, effectivement, du corps sportif. Elle le dit d'ailleurs aussi dans le documentaire, dans cette émission dont on parlait. Les hommes minces et musclés sont effectivement plus beaux que les autres. Et donc, c'est mon métier de les filmer. Et pas les handicapés, notamment cette scène.
Jérôme Bimbenet, donc en fait, le cinéaste d'Hitler était une femme, c'était une cinéaste, voilà. Ça a quand même une importance
ça a une importance, y compris dans la fascination qu'on peut avoir pour la personne, quand même, qui a réussi à devenir quelqu'un d'absolument essentiel dans la diffusion du nazisme. Elle a fabriqué l'image du nazisme aux yeux du monde, et jusqu'à aujourd'hui.
Puisque... Et elle-même, elle jouait effectivement de son autonomie. la liberté.
Tout à fait, elle était féministe avant l'heure, même si à l'époque on ne parlait pas trop comme ça, mais elle l'était. Je me souviens d'une interview qu'elle avait donnée dans la presse française au début des années 30, où elle demandait aux Françaises d'enlever leurs jupes et leurs robes et de mettre des pantalons. Voilà. Et pour en revenir juste deux secondes sur la manière dont elle filme le corps sportif ou le corps du soldat allemand ou par la suite des Noobas, eh bien c'est une façon de filmer extrêmement sensuelle. C'est-à-dire, elle filme la virilité de manière sensuelle, d'où la récupération aussi par le mouvement gay à une certaine époque.
Jeanne Lorengo, c'est une femme. Ça va d'ailleurs l'empêcher d'accéder à la politique vraie, parce que
oui.
Albert Schwert, c'est autre chose. Il termine ministre quand même. Hein.
Mais quelque part, je me demande si ça la sauve pas aussi, parce que effectivement, on voit qu'elle adhère au régime national-socialiste, mais le régime national-socialiste interdit aux femmes d'exercer des fonctions politiques. Et donc, à la différence de Schwert, qui lui est un politique officiel, s'il devient il était déjà secrétaire d'État aux constructions, il avait des différents titres.
Il devient ministre de l'armement.
Et il devient surtout ministre des munitions et de l'industrie de guerre. Et là, à ce titre-là, il participera à l'extermination par le travail, ce qu'on appelle l'extermination par le travail.
Ce qui est quand même incroyable, là encore, comme travail de mémoire et de falsification, c'est que... Quand on dit Albert Speer aujourd'hui, on dit « Ah oui, l'architecte ».
Exactement. Et là, c'est là tout l'intérêt de son après-guerre à lui, et que de l'art du récit, de l'art de se raconter soi-même, et d'être l'historien de lui-même, parce qu'il... c'est qu'effectivement, son rôle essentiel de ministre, eh bien, on l'oublie aujourd'hui. On ne retient que l'architecte, on retient effectivement le congrès Nuremberg, le dôme du peuple qui est repris, la fameuse avenue d'Apara, Germania, qui est repris dans toutes les uchronies, que l'on peut voir sur Netflix, l'homme dans du haut château, etc. Et pas le ministre, alors qu'il était aussi important que Goebbels ou Himmler.
Alors que Leni Riefenstahl, elle, Jérôme Benbenet, elle va surjouer cette question justement du magnétisme d'Hitler, de cette manière à la fois christique, bien sûr, dans le triomphe de la volonté, mais aussi très sensuelle qu'il a d'attraper par la force du verbe des foules enfiévrées.
Oui, la force du verbe qui est transcendée dans le triomphe de la volonté par la force des images de Leni Riefenstahl, qui le filme comme personne, et d'ailleurs à tel point qu'Hitler interdira ensuite qu'on le filme de cette manière-là. Il n'acceptera que les actualités, et il dira que c'est le film définitif sur moi, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il apparaît quand même dans Les Dieux du Stade, mais il apparaît autrement, c'est un autre Hitler.
Écoutez d'ailleurs dans le film Leni Riefenstahl, La lumière et les ombres d'Andrés Weyel, ce qu'elle dit du moment où elle voit et entend Hitler.
Un rassemblement a eu lieu à Berlin. Lorsque Hitler a prononcé les premiers mots du discours, chers concitoyens, quelque chose de très étrange s'est passé en moi. Je tremblais de la tête aux pieds et j'étais en nage. C'était comme si j'étais sous l'emprise d'une force magnétique.
Éléonore Chaline, bonjour.
Bonjour.
On va essayer avec vous d'entrer encore un peu plus dans la compréhension de ce que Suzanne Sontag appelait le fascinant fascisme.
Oui, c'est un mot qu'on a entendu au long de cette émission, oui. Fascinant, fascination. Et je trouvais intéressant de revenir sur cet essai donc, qui date de 1975, qui est publié par cette intellectuelle américaine qu'on connaît plus généralement pour Sur la photographie ou Devant la douleur des autres, et qui va publier ce texte dans The New York Review of Books, donc sous ce titre anglais Fascinating Fascism, pardon, qui a été traduit en fait en français, je l'ai appris grâce à votre livre, Jérôme Benbenet, Fascination du fascisme, je vais y arriver, dans le magazine littéraire en janvier 1977. Et ce texte, je l'ai découvert en fait dans un essai, un groupe d'articles republié en 2023 qui s'appelle On Women, dans lequel il y a ce texte qui traite en fait à la fois de Leni Riefenstahl, mais du goût pour le fascisme.
Oui, c'est ça, c'est un article en deux parties. Hein, c'est
voilà,
ça.
Il y a deux parties et Sontag les présente vraiment Exhibit Number 1, Exhibit Number 2. Donc c'est des pièces à conviction et la première pièce à conviction, c'est le livre qu'elle publie en 1974 aux États-Unis, donc Les Derniers Noobas. donc sur cette population du Sud-Soudan qu'elle a été photographiée à plusieurs reprises. Et la deuxième pièce à conviction, mais sur laquelle elle sera beaucoup moins longue, c'est un magazine de Regalia nazi qui s'appelle SS Regalia 1974.
Les derniers Nuba, il faut comprendre, c'est un best-seller en fait, hein.
C'est un best-seller qui va être donc un grand succès en Allemagne, un succès en Angleterre,
j'ai
aux États-Unis.
J'ai quelques images, je vous les fais passer.
En France, donc qui est un livre de photographie couleur. Il y a 126 photographies, je crois, dans la version américaine du livre. Ce livre, il est entouré d'une jaquette qui va susciter l'énervement et le dégoût même de Susan Sontag, qui regarde notamment les photographies que Leni Riefenstahl publie d'elle-même sur toute sa vie, en fait, depuis les années 20 jusque là, on est en 1974. Et Sontag a cette phrase très drôle où elle se dit que l'âge, le vieillissement n'a pas de prise sur Leni Riefenstahl. Et elle se demande qui a écrit les textes, la quatrième de couverture, l'intérieur, la biographie de Leni Riefenstahl. Et elle pense que c'est Leni Riefenstahl elle-même qui fait son autopromotion dans ce livre. Et Sontag est très agacée, elle va démonter pièce par pièce les éléments du discours de Riefenstahl. Tout le but de cet essai étant de démontrer les mensonges de Leni Riefenstahl.
Oui, parce que en fait, normalement, pour Leni Riefenstahl, ce livre, ça la sauve. Finalement, elle montre des corps noirs, pas que des nazis, mais en réalité, pour nous, quand on le voit aujourd'hui, ça continue à l'accabler, non ?
Ça continue à l'accabler, et en fait, pour Sontag, c'est le troisième volet fasciste,
ouais, c'est ça,
qu'elle veut dévoiler de Riefenstahl. Donc, vous l'avez dit, c'est un best-seller, et il y a des critiques très positives sur le livre. C'est-à-dire, tout le monde dit que c'est une très grande photographe, que justement, elle a su capter la beauté, etc., des corps, des combats, du mouvement, à travers ses photographies. Et Sontag a du mal à supporter, en fait, ses retours sur ce livre, et vraiment veut démolir le discours sur Riefenstahl. Et donc, on est dans ce contexte des années 70, où finalement, elle est en cours de réhabilitation, et c'est ça qui lui pose problème. Et c'est assez intéressant aussi, parce que, en fait, Sontag avait déjà écrit 10 ans avant un très court paragraphe sur Riefenstahl, où elle se disait que le triomphe de la volonté, que Olympia dépassait la forme de la propagande. Enfin, c'était des films de propagande absolue, mais que formellement, ils étaient finalement meilleurs que des films de propagande quelque part. Et elle revient en fait sur cette idée en se demandant, et il me semble que c'est vraiment une question essentielle qu'elle pose, en quel sens le travail de Leni Riefenstahl incarne les valeurs nazies ? Pourquoi ces films des années 30, ce livre des années 70, est-ce qu'ils demeurent intéressants et persuasifs ? En fait, elle refuse aussi de séparer la femme de l'artiste, de la situation. Pour elle, en fait, il faut analyser un tout et comprendre ce qui est à l'œuvre dans les sociétés occidentales dans les années 1970 et pourquoi, finalement, on fait à nouveau parler Leni Riefenstahl, on l'interviewe, on la fait venir dans des émissions de télévision, il y a une interview dans les cahiers du cinéma, on projette ses films dans des festivals. Bref, elle est partout
elle
à
est
nouveau.
Célébrée.
Elle est célébrée, en un sens, et pour Sontag, c'est assez insupportable. Et elle se dit, en même temps, que c'est toute la force des films de Riefenstahl qui est d'enjoindre le spectateur à filtrer, à oublier l'idéologie politique pour accéder au mérite esthétique du film. C'est un peu une sorte de sorcellerie visuelle, on pourrait dire, avec tout le vocabulaire des avant-gardes des années 30, les plongées, les contre-plongées, etc., qui est intégré dans ces films. Et c'est, en fait, dans ce texte, ce que je trouve intéressant, c'est que Sontag, voilà, analyse vraiment ce qui peut fasciner dans les films de Riefenstahl.
Alors, ce qui est intéressant, Eleanor Schalin, c'est qu'elle a changé Susan Sontag. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'elle écrit en 1975. Mais 10 ans avant, dans les cahiers du cinéma, elle fait un entretien, je crois, avec Leni Riefenstahl. Là, elle n'avait pas tout à fait la même position.
Alors, 10 ans avant, elle écrit un texte qui s'appelle On Style, qui n'est pas dans ses cahiers du cinéma, mais parce que ce texte a été très polémique. En fait, il a fait bondir une part des féministes. Sontag essayait d'expliquer que
Il y avait que Riefenstahl était projeté parfois aux côtés de Varda, etc., dans ces années-là. Et elle va aussi être mise en cause, enfin, en tout cas, on lui demande de revenir sur le fait qu'elle ne défend pas tout à fait la même théorie à 10 années d'écart. Et elle a cette réponse que je voulais vous citer parce que c'est vrai qu'elle est assez merveilleuse et assez belle aussi. Sontag répond à son intervieweur: But I have more historical flesh on my bones now. Mais j'ai plus de chair historique sur mes os maintenant. En 10 ans, elle dit qu'elle a davantage lu, qu'elle a voyagé en Chine, qu'elle a vu d'autres films et qu'elle a gagné cette épaisseur et qu'elle ne voit plus ses films de la même manière. Et finalement, l'histoire, elle l'a aussi incorporée en tant qu'historienne et elle a alors 42 ans.
Oui, et nous, maintenant, on peut d'ailleurs se poser la question, Jérôme Benbenet et Jean-Noël Rengo, sommes-nous certains, absolument certains, qu'en continuant à diffuser ces images, on ne produit pas encore un effet de fascination? Ça, c'était la question de Suzanne Sontag, et d'une certaine manière, elle est toujours devant nous, non, Jérôme Benbenet?
Je suis bien d'accord, c'est bien la question, et la question de savoir est-ce qu'on doit encore montrer ces films. Bon, moi je suis plutôt pour, mais à condition qu'il y ait un appareil critique extrêmement important, une contextualisation. Donc effectivement, il y a cette fascination qui est due aussi à l'image et au cinéma. Le cinéma amène cette fascination auprès des gens, auprès du public, ce que le livre ne fait pas forcément. Et donc c'est une vraie question. Après, imaginons qu'on ne montre plus du tout ce type d'image. Vous savez, je crois que la télévision d'aujourd'hui est quand même imbibée de ce genre d'image et que la propagande, elle est partout. Donc, je pense qu'il faut continuer quand même.
Oui, il faut continuer, mais il faut continuer en se posant la question de savoir si on a le droit de continuer. C'est ce que vous faites, hein, Jean-Noël Rengo.
En posant la question morale du droit d'écrire dessus, je pense.
En fait, votre livre, il tourne autour de cette question. Ça. Est-ce que j'ai vraiment le droit d'écrire un livre de plus sur un nazi?
Voilà, c'est ça. Et je pense que ça rejoint quelque chose de très simple, entre guillemets, mais qui n'est pas résolu et qui ne sera sans doute jamais. C'est la fascination pour la fascination du pire, c'est-à-dire la place que le mal occupe dans nos mémoires, le fait qu'on se souvienne plus facilement des bourreaux que des victimes. C'est ce que je dis, si on n'a pas des déportés dans sa famille, citer le nom d'un déporté, c'est plus difficile que citer le nom d'Adolf Hitler.
Il est bien tard, on peut croire qu'on n'a pas aujourd'hui reçu de carte postale de Mathieu Pont-Bonneville. Ben si, elle arrive, in extremis.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, c'est quoi le problème avec les poissons? Par exemple, le 17 juin 1999, le commandant Jacques-Yves Cousteau fit son entrée à l'Académie française. Le pommeau de son épée figurait 3 pingouins de l'Antarctique, le bouton de la bague un nautile, la garde une ancre romaine. Le même jour, pourtant, le quotidien France Soir publiait en facsimilé une lettre du commandant datée du 1er mai 1941. Le marin, fraîchement arrivé à Marseille, s'y plaignait en ces termes de ses conditions de logement, je cite: Nous sommes actuellement campés dans un petit pavillon d'une pension de famille sur la corniche. Ce n'est pas gai pour Simone, mais il n'y aura d'appartement convenable que quand on aura fichu à la porte tous les ignobles youtres qui nous encombrent. Fin de citation. La publication troubla la limpidité de la réception à l'Académie. Chargé de son éloge, Éric Orsena souligna en aparté que Jacques-Yves Cousteau n'avait jamais émis ce genre d'ignominie en public, en quoi il faisait mieux que son frère. Cela dit, faire mieux n'était pas difficile puisque le frangin Cousteau en question dirigeait à l'époque l'hebdomadaire « Je suis partout ». On veut le voir aussi dans ces malheureuses lignes, l'expression ordinaire d'une époque, contre quoi je persiste à penser que « youtre » n'est pas n'importe quelle injure, parce que pour une palette d'expressions xénophobes données, il y en a toujours une pire que les autres, et qu'en français, « youtre » marque ce point d'inflexion-là, par où le lexique de l'antisémitisme crève sa propre surface, coule à pic vers le pire. C'est quoi le problème avec les poissons? Qu'il y ait dans la biographie du réalisateur du Monde du Silence cette traînée d'eau sale, que réciproquement, Leni Riefenstahl, cinéaste officiel du régime hitlérien, ait développé sur ses vieux jours une passion pour la plongée, dont porte témoignage son dernier film, Impression sous-marine, présenté quelques jours avant son 100e anniversaire. De cette conjonction, y a-t-il quoi que ce soit à penser? Ou faut-il seulement séparer l'homme-grenouille de l'artiste? Pour ma part, j'y vois un avertissement. Ne pas oublier que, si les fascismes au XXe siècle entretinrent avec l'esthétique moderne une forme de gémellité grimaçante, c'est en s'alimentant à la double matrice de la modernité, sa passion pour une nature intégralement humanisée et son goût des espaces inviolés, sa double propension à la maîtrise et au vertige, son amour contradictoire pour l'ordre géométrique et pour les paysages où l'œil s'égare, comme dirait Emmanuel Kant, le sentiment du beau et celui du sublime. À l'heure où, de Donald Trump à Patrick Pouyanné, l'extractivisme chante les louanges d'une exploitation intégrale de la nature, appelle à forer les océans et à racler jusqu'au fond des mers, il faut se souvenir quand même que le goût des territoires intacts fut, redevient parfois lui aussi une passion trouble par sa quête de silence et de pureté. Ce n'est certes pas une raison pour renvoyer dos à dos les accapareurs de la terre et les défenseurs des poissons. Mais à la veille de l'année des océans, il est important de rappeler que la lutte écologique peut et doit se soutenir d'un droit à l'habitation commune du globe. C'est le seul mot d'ordre qui vaille, parce que c'est un même tourment qui nous saisit lorsque nous pleurons ce qui arrive aux mers, où vivent les poissons, et ce qui arrive en mer quand femmes et hommes s'y noient. Pour les bêtes et les gens, nos larmes, Patrick, nos larmes sont également salées.
France Culture. Allons-y voir. Patrick Boucheron.
Mathieu Potbonneville est directeur du département culture et création du centre Beaubourg. Et vous avez entendu, il nous envoie des cartes postales. Ça pourrait nous inspirer le titre d'une émission, Plongée contre plongée. Même quand elle plonge en eau profonde, Leni Riefenstahl finalement ne s'éloigne pas d'elle-même.
Oui, mais je pense que ce sont des gens qui, enfin, c'est, ce sont des gens du XXe siècle. Je crois que toutes ces notions de darwinisme social, de par-delà bien et mal, voilà, c'était très important, en tout cas pour Schperr. Et encore une fois, pour revenir à ce credo qui me semble assez fantastique, la volonté de faire, l'idéalisme, c'est ce qui la marque. Et structurellement, elle est la même qu'elle filme les soldats allemands, des Nubas, ou qu'elle s'adonne aux profondeurs marines. C'est un peu la même chose.
On ne change pas à ce point, Jérôme Vamnet, parce que quand même, là, on parle de ces films. Elle meurt en 2003, je crois.
Oui, c'est ça. Mais je ne pense pas qu'elle ait beaucoup changé, en fait, entre le moment où elle commence à faire des films de montagne en 1926, donc elle commence d'ailleurs dans les espaces inviolés, voilà. Oui. La montagne. Justement, elle quitte la zone qui ne lui convient pas, c'est-à-dire cette zone un petit peu polluée de population qui ne lui plaît pas, où elle est poursuivie, enfin, bon, cette espèce de martyr qu'elle va forger durant toute sa vie. Et elle meurt effectivement après avoir tourné dans les grands fonds sous-marins. Donc on passe des sommets aux abysses. Et je ne pense pas qu'elle ait changé, en fait. C'est toujours la même personne qui réécrit sa vie, qui passe son temps à vouloir faire des films et à exister. Et elle, c'est une opportuniste. Et en fait, ce qui se caractérise, à mon sens, le mieux, Leni Riefenstahl, c'est ça. C'est son égocentrisme et son opportunisme.
Éléonore Chaline.
Et en plus, en raison de sa longévité, voilà, elle vit plus de 100 ans, 101 ans. En fait, la majeure partie de sa vie, presque, c'est de l'autre côté. Absolument. De la Seconde Guerre mondiale. Oui, voilà. Et pendant, elle a des décennies et des décennies pour regarder ce qui s'est passé. Et on sent dans ses discours qu'il y a une rupture dans l'après-guerre au début des années 50, mais elle veut toujours revenir. C'est-à-dire, c'est pas du tout quelqu'un qui disparaît, qui va se faire oublier, qui va essayer de se cacher, etc. C'est quelqu'un qui continue son activité. Et sur les Nubas, il vient d'y avoir une étude sur l'ensemble de ses photographies. C'est plus, je crois, de 10 000 photographies. Elle est inarrêtable. Mmh. Elle a une énergie.
C'est ça. Et le nazisme est-il lui-même inarrêtable? C'est ça la question, ça vaut avertissement, Jean-Noël Orengo. Moi j'ai lu votre livre comme ça, vous êtes l'amour malheureux du Führer. Bien sûr que si le nazisme revient, c'est pas comme on le voit sur cette photo de Nuremberg en 1934, c'est pas avec des chemises brunes, mais c'est avec cette tenace haine de la modernité. oui, par exemple.
Oui, oui. Enfin,
et tenace et paradoxal, puisque vous l'avez bien dit. Ils prennent l'esthétique moderne pour la retourner.
Pour la retourner contre elle-même, en fait, notamment dans le cinéma de Riefenstahl et, ou dans l'architecture de Speer, qui peut être vue quelque part presque comme une anticipation de. Alors, si des architectes nous écoutent, ils vont nous tomber dessus, mais du postmodernisme, parce que dans le mélange des époques, sans tenir compte d'une réflexion, justement, historique sur les formes, mais en les mélangeant sans se gêner, effectivement, il y a là un geste postmoderne. Oui, c'est les métamorphoses de la mémoire, de comment on se souvient, de la manière dont on se souvient. Il y avait ce qu'on appelait la damnatio memoriae, où il fallait oublier les tyrans, et la manière dont on les remontre aujourd'hui peut créer de la fascination.
C'était Allons-y voir. Merci à vous deux, Jérôme Bamnay et Jean-Noël Orengo. Merci à vous, Éléonore Chaline. Les références de vos parutions sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Sophie-Catherine Gallet et Anouk Minaudier, à la prise de son Noé Chaban et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous.
Vous êtes bien sur France Culture.
L'actualité vue par France Culture avec des intellectuels, des experts et des artistes.
Guillaume Erner.
Ce sont les matins de 6h30 à 9h.
Les matins de France Culture. Du lundi au vendredi à 6h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Une récente étude de l'INSERM passe au crible les comportements sexuels des Français et des Françaises de 18 à 89 ans.
Sonia Kronlund.
Recul de l'âge des premières fois, diversité des pratiques, puissance du numérique.
Au bout d'un moment, on parle cul et il m'envoie une photo de son pantalon, quoi. Et ça, c'est très excitant, évidemment.
Dernière nouvelle du sexe, 20 ans d'évolution des sexualités. Ce sont 13 épisodes proposés par Les Pieds sur Terre pour illustrer les résultats de cette vaste enquête. À écouter sur franceculture.fr et l'application Radio France.
En partenariat avec Libération.
Comment la vie, exclusivement marine, est-elle sortie de l'eau ? Marc Mortelmans vous raconte l'aventure des premiers explorateurs qui passent de l'eau à la terre avant de conquérir le ciel, sans oublier ceux qui sont retournés à l'eau, comme les baleines